Sounds dread.
I wish that girls could fail as bad as men do.
Human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
M'en tenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Paroles de sorcières. En cette semaine du 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes, nous avons décidé de nous consacrer à l'histoire des luttes qui ont permis aux femmes d'atteindre aujourd'hui de nombreux de leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, comme si certains nous semblent évidents, comme la liberté de circulation ou de voter, il faut rappeler également les paroles de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Bonne écoute.
Human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
Toute personne a droit au respect de ses droits humains. Ces droits comprennent le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mental susceptible d'être atteint, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire égal. Les droits des femmes sont des droits humains. Cela peut sembler évident, mais une société ne peut être libre et égalitaire tant que toutes les personnes ne sont pas libres et égales. Tant que les femmes n'auront pas les mêmes droits que les hommes, cette inégalité sera un problème qui concernera tout le monde. D'après l'ONU, l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et des filles n'est pas seulement un but en soi, mais aussi un élément essentiel au développement durable, à la croissance économique et à la paix et la sécurité. La recherche l'a confirmé. Les sociétés s'améliorent au bénéfice de tous lorsque les droits des femmes sont respectés et pris au sérieux. Lorsque l'on s'intéresse aux droits des femmes, il est utile d'avoir une certaine compréhension du féminisme. Essentiellement, le féminisme est la conviction que les femmes ont droit à l'égalité politique, économique et sociale. Le féminisme œuvre à veiller à ce que les femmes puissent bénéficier pleinement de leurs droits, au même titre que les hommes. Les droits des femmes sont bafoués sur la base du sexe et du genre, que ça soit par des violences, du harcèlement sexuel ou des violences sexuelles, de la discrimination dans l'espace public ou au travail. C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, les mouvements des défenses des droits des femmes lutte avec acharnement contre les inégalités, en faisant campagne pour que les lois changent ou en descendant dans la rue pour réclamer le respect de ces droits. Voyons maintenant quelques droits en particulier.
I wish that girls could fail as bad as men do.
Quel est notre droit au consentement ? Aujourd'hui, la question du consentement est surtout mise en avant dans le domaine de l'intime, parce qu'au-delà, on considère déjà beaucoup plus comme acquis, même si ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Mais accorder aux femmes le droit de consentir librement, c'était pas naturel pour tout le monde. Et c'est même finalement extrêmement récent. Durant l'Antiquité occidentale, les femmes étaient considérées comme des propriétés de leurs pères, de leurs époux ou apparentés. Leur consentement n'existait donc pas. Tout passait par celui de leurs représentants, et dans le cadre de l'intime, l'union civile et religieuse étant acceptée par leur garant, celle sexuelle allait de pair. Notons qu'il ne faut pas non plus avoir une vision complètement sombre des périodes passées. Le consentement des femmes pouvait exister, comme au Moyen-Âge, lors des cérémonies religieuses de mariage. C'était bien l'accord des deux époux qui était demandé. Donc la voix des femmes avait un certain poids, mais une reconnaissance juridique bien moins importante que celle des hommes. Ça révèle que pour avoir finalement le droit de consentir, il faut être reconnu juridiquement. En France, en 1804, le Code civil institutionnalise l'infériorité de la femme, qui doit obéissance à son mari. Et ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que les femmes accèdent à des droits qui leur permettent d'acquérir réellement une personnalité juridique autonome. C'est par exemple le droit de travailler, de détenir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Et donc, ce n'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a un début d'égalité civile entre les époux et dans la sphère privée, qu'on peut avoir une question de consentement, y compris intime. En effet, il va falloir ensuite attendre 1980 et la requalification du terme « viol » dans le code pénal pour que celui conjugal puisse être évoqué du point de vue juridique. Donc en fait, le consentement des femmes, c'est très récent. Et aujourd'hui, c'est pas un droit qui est pleinement acquis. Il est toujours remis en question et débattu, que ce soit en France ou dans le monde.
M'en tenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
Qu'en est-il des femmes et du droit au travail ? Les femmes ont toujours travaillé. Déjà parce que rien qu'en ayant une vision très patriarcale et cliché sur laquelle la femme reste au foyer, le travail dit domestique, c'est du travail. Mais surtout parce que cette conception de la place des femmes dans la société est en grande partie erronée. Elle n'a concerné dans l'histoire que quelques femmes, dans des périodes spécifiques, et avant tout dans des sacs socioculturels, souvent aisés. Dans le passé, les femmes étaient au champ, au moulin, sur des chantiers, pour la simple et bonne raison qu'il était souvent insoutenable économiquement pour les familles que la moitié de la maisonnée se consacre à la tenue du foyer. Néanmoins, il faut rappeler qu'avant 1965, en France, le travail des femmes et leur accès au travail étaient conditionnés à l'accord de leur mari. Si on creuse un peu plus, c'est en 1907 qu'elles disposent enfin de leur propre salaire. Avant, il était versé à leur époux ou leur famille. Et il faut attendre 1946 pour que l'abattement salarial systématique lié à leur genre soit supprimé. C'était tout bonnement un pourcentage de salaire qui ne leur était pas reversé, par simple justification que c'était des femmes. Ainsi, la question n'est pas de savoir depuis quand les femmes sont autorisées à travailler, mais depuis quand elles sont rétribuées pour leur labeur. Donc le droit au travail des femmes comprend l'accès non discriminatoire des femmes aux emplois et à l'égalité de rémunération avec les hommes. Et sur ces points, il y a encore plein d'actions à mener. En 2019, et selon une étude de la Banque mondiale, les femmes ne bénéficiaient que des trois quarts des droits accordés aux hommes. Dans toutes les zones géographiques, ces restrictions à l'emploi se concrétisaient par des surreprésentations dans le secteur informel, et se concrétisent toujours encore. Et cette surreprésentation tend à accentuer l'écart salarial. S'il se resserre très lentement dans les pays de l'OCDE, dans 56 économies présentes dans toutes les régions du monde et tous les revenus confondus, n'ont adopté aucune réforme en 10 ans pour améliorer l'égalité des chances entre les sexes. Et il faut pas se dire que les choses sont beaucoup mieux en France. En 2023, selon Eurostat, l'écart moyen de salaire entre les femmes et les hommes est de 15,4%. Ceci est accentué par la plus forte proportion des femmes à avoir un emploi à temps partiel, mais c'est aussi une forme de disparité et d'inégalité entre les genres. À poste et temps de travail égal, cet écart demeure à 5,3%. Il faut également prendre en considération que les tâches domestiques sont encore en grande partie portées par les femmes. Alors que selon l'INSEE, si elles étaient rémunérées à leur temps de travail, elles représenteraient 33% du PIB national.
Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
L'accès à l'IVG est un droit encore aujourd'hui contesté. L'interruption volontaire de grossesse a été légalisée en France avec la loi Veil du 17 janvier 1975. Cela fait suite à des années de lutte, de mouvements et d'associations féministes comme le MLAC et une mobilisation politique. Cependant, et malgré le vote historique du lundi 4 mars qui fait de la France le premier pays au monde à adopter le droit à l'avortement dans sa constitution, si on fait exception de la Yougoslavie, il ne faut pas oublier que tout n'est pas acquis et que l'application de ce droit n'est pas accessible à toutes. D'après Le Monde, 45 centres hospitaliers pratiquant l'IVG ont fermé entre 2007 et 2017. Le nombre de maternités a chuté de 814 à 461 entre 1996 et 2019. Les financements du planning familial sont toujours remis en question. La clause de conscience accordée aux médecins lors du vote de la loi Veil demeure. Ainsi, dans certains territoires, l'accès réel à l'IVG est difficile, voire impossible. Il faut également rappeler que malgré les avancées, les détracteurs de l'IVG ne faiblissent pas. Le 21 janvier dernier, c'était la 17e marche dite pour la vie qui s'est tenue à Paris. Le droit à l'IVG est donc maintenant mieux protégé grâce au vote du 4 mars, mais la stigmatisation des femmes qui procèdent à de telles interventions perdure et l'accès aux soins n'est pas encore garanti pour toutes. Dans le monde, la situation est encore plus critique. Une vingtaine de pays condamnent encore pénalement l'avortement et d'autres le restreignent très fortement. Aujourd'hui, et d'après l'OMS, ce sont encore près de 45 000 femmes qui décèdent chaque année des suites d'une IVG non médicalisée. Ça fait une femme toutes les 9 minutes. Rendre l'accès à l'IVG légal, ce n'est donc pas une question d'autoriser ou non les femmes à interrompre leur grossesse. Si elles le souhaitent, elles braveront les interdits elles le font déjà. La légalisation de l'IVG, c'est avant tout une question de santé pour les femmes, voire de leur survie.
Bad as men do. Human rights are women's rights, and women's
rights are human rights. Explorons désormais le droit fondamental des femmes à circuler librement, c'est-à-dire le droit de se déplacer à sa guise dans son pays de résidence, comme de voyager à l'étranger. Dans de nombreuses cultures, les femmes ont été confrontées à des restrictions à leur mobilité, limitant leur accès à l'éducation, à l'emploi et à d'autres opportunités cruciales. Ces limitations se font par la loi ou la pratique, et sont souvent justifiées par la protection des femmes. Au XIXe siècle, les femmes en Europe étaient souvent confinées à des espaces domestiques, limitant leur participation à la sphère publique. Des mouvements comme les suffragettes ont émergé pour revendiquer le droit de vote, symbolisant la lutte pour une plus grande autonomie, y compris la liberté de circuler. Malgré les progrès, des entraves persistent. Dans certaines régions du Moyen-Orient, des normes culturelles peuvent restreindre la mobilité des femmes en public, influençant leur participation sociale et professionnelle. En Arabie Saoudite, la levée de l'interdiction de conduire pour les femmes en 2018 a marqué un pas important vers une plus grande autonomie. Cependant, des défis subsistent, soulignant la complexité des enjeux liés à la mobilité féminine, notamment pour obtenir un passeport sans l'accord d'un tuteur masculin. Le droit des femmes à circuler librement est non seulement une question de déplacement physique, mais aussi un symbole de l'autonomie individuelle. Les campagnes visant à déconstruire les stéréotypes de genre et à promouvoir la sécurité personnelle sont cruciales pour renforcer ce droit fondamental. Si dans certains pays, des avancées sont enregistrées pour la libre circulation des femmes, d'importants reculs sont aussi à constater. En Afghanistan, notamment depuis le retour des talibans, les femmes ne peuvent sortir de chez elles seules et sont donc confinées à leur espace domestique. Elles ne peuvent donc pas se rassembler, travailler ou s'éduquer en dehors de leur domicile et sans l'accord de leur tuteur masculin.
I wish that girls could fail as bad as men do.
Le mariage, institution millénaire, a joué un rôle central dans la vie des femmes à travers l'histoire. Cette section se penche sur l'évolution des droits des femmes au sein du mariage et explore les défis persistants ainsi que les réformes nécessaires. Le mariage a longtemps été marqué par des inégalités de genre, les femmes étant souvent reléguées à des rôles subalternes. Au fil des siècles, cependant, des mouvements féministes ont émergé, remettant en question ces normes et plaidant pour l'égalité au sein du partenariat conjugal. Malheureusement, de nos jours, des femmes à travers le monde font face à la réalité déchirante du mariage forcé et précoce. Ces pratiques privent les femmes de leur autonomie et de leurs droits fondamentaux, compromettant leur éducation, leur santé et leur épanouissement personnel. Par exemple, en Asie du Sud, de nombreuses jeunes filles sont encore mariées de force, souvent avant l'âge légal du mariage. Les conséquences de telles unions sont profondes, allant de la santé mentale et physique détériorée à la privation d'opportunités éducatives. La question du divorce est une facette cruciale des droits des femmes au sein du mariage. Les femmes ont désormais davantage de recours légaux pour demander un divorce, mettant fin à des unions où leurs droits sont bafoués. Les réformes juridiques dans de nombreux pays reconnaissent désormais le droit des femmes à rompre un mariage toxique. Dans plusieurs pays européens, les lois sur le divorce ont été révisées pour assurer une procédure équitable et des droits financiers pour les femmes, encourageant ainsi l'indépendance économique post-divorce. Malgré les progrès, le viol conjugal reste une réalité souvent méconnue. Dans de nombreuses juridictions, il n'est pas encore pleinement reconnu en tant qu'infraction. Les femmes peuvent encore se retrouver sans protection légale contre les abus sexuels au sein du mariage, soulignant la nécessité urgente de réformes et de sensibilisation. Dans certaines régions du Moyen-Orient, par exemple, le viol conjugal n'est pas toujours traité comme une infraction distincte, ce qui expose les femmes à des niveaux alarmants de violence sans recours adéquat. Le mariage, et de manière générale le couple, reste un des domaines les plus inégalitaires entre les hommes et les femmes. En effet, le mariage a été l'outil principal du patriarcat pendant des siècles pour asservir les femmes. Et cela laisse des traces. Il suffit d'observer la répartition des tâches ménagères pour s'en rendre compte.
Maintenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
Lorsque nous explorons les droits des femmes à travers le monde, il est essentiel de se pencher sur l'héritage colonial qui a laissé une empreinte profonde sur la condition des femmes dans de nombreuses anciennes colonies. Cette section met en lumière les défis spécifiques auxquels les femmes ont été confrontées et les mouvements qui ont émergé pour lutter contre les inégalités héritées du colonialisme. Le colonialisme a souvent exacerbé les inégalités de genre en imposant des normes culturelles et sociales qui ont marginalisé les femmes dans les sociétés colonisées. En Afrique, par exemple, les politiques coloniales ont limité l'accès des femmes à l'éducation formelle et les ont souvent reléguées à des rôles traditionnels. Au Nigeria, sous le régime colonial britannique, les femmes ont été exclues des sphères politiques et éducatives, contribuant à des disparités de genre qui persistent encore aujourd'hui. Face à ces injustices, des mouvements de résistance et d'émancipation ont émergé, portés par des femmes courageuses luttant pour leurs droits. En Inde, les femmes ont joué un rôle essentiel dans la lutte pour l'indépendance, remettant en question les normes patriarcales héritées du colonialisme britannique. On peut penser par exemple aux Begums de Bhopal, telles que Quizza Begum, qui ont été des figures pionnières dans le mouvement pour l'indépendance et ont plaidé pour les droits des femmes, ou encore au mouvement des suffragettes, dirigé par des femmes telles que Sarojini Naidu, qui ont joué un rôle clé dans la lutte pour les droits des femmes et ont jeté les bases pour le mouvement féministe post-indépendance. Même après l'indépendance, de nombreuses anciennes colonies ont dû surmonter les séquelles du colonialisme en matière de droits des femmes. En Amérique latine, certaines femmes autochtones font face à des discriminations persistantes en raison de l'héritage colonial et de la marginalisation continue. Ces femmes sont souvent exclues des processus décisionnels malgré les contributions significatives à la préservation de la culture et de l'environnement. La reconnaissance des droits des femmes dans les anciennes colonies est cruciale pour bâtir des sociétés plus équitables. Les voix des femmes autochtones et issues des anciennes colonies sont de plus en plus entendues, propulsant des changements significatifs vers une véritable égalité des sexes. En examinant les droits des femmes dans les anciennes colonies, nous reconnaissons l'importance de comprendre l'impact durable du colonialisme sur la condition des femmes.
Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
Notre podcast arrive maintenant à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très agréable journée. Si vous souhaitez nous suivre un peu plus, vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, EDEC Inspiring Women, où vous retrouverez à la une des stories sur Le Saviez-Vous, où il y a des anecdotes un peu similaires à ce que nous venons de vous raconter.
I wish that girls could fail as bad as men do.
Human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
M'en tenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.